Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est super content aujourd'hui de vous retrouver pour la deuxième édition du podcast avec la publication de la Gazette Jean Prévost. En parlant de Jean Prévost, on va en apprendre un peu plus dessus. Car effectivement, notre podcast aujourd'hui sera sur le rôle du Vercors dans la Seconde Guerre mondiale. En premier temps, je vais faire un petit résumé sur cette période chargée d'histoire. Puis nous aurons Yann qui va nous parler de ce fameux Jean Prévost. Bonjour Yann.
Bonjour Margot.
Puis, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une nouvelle élève. D'ailleurs, si vous voulez participer au journal ou au podcast, ça se passe tous les jeudis, de midi à 13h, en salle 308, et vous pouvez vous renseigner auprès de Monsieur Bourré. Lilou va donc nous parler de sport et de Jeux Olympiques dans le Vercors. Bonjour Lilou.
Bonjour.
Et pour finir, comme lors de la première édition, on va se faire l'instant Parcoursup avec Leclerc Antoine en études de cinéma. Allez, je commence sans tarder. Comme beaucoup le savent, le Vercors est terre de résistance. Il a pu jouer un rôle important lors des combats de 1939 à 1945. Il y a d'ailleurs de nombreux sites disponibles à la visite, comme à Vassy-en-Vercors. Mais pourquoi des résistants venaient se cacher dans ce lieu isolé? Eh bien en réalité, c'est en partie grâce à la géologie de notre beau massif. Avec de vastes étendues de forêts et de montagnes, il était plutôt aisé de trouver un lieu sûr pour se cacher et surtout difficile d'accès par les ennemis. Vous devez sûrement connaître le nom de certains maquisards du Vercors, comme François Huet et Jean Prévost, ayant mené des actions de sabotage et de renseignement contre les forces d'occupation nazies. Mais en juillet 1944, après le débarquement en Normandie, la République libre du Vercors est proclamée par les résistants, provoquant une oppression féroce de la part des Allemands. Une offensive massive est donc lancée contre ces maquis, avec notamment des parachutistes ravageant maquisards et civils. Les villes sont détruites, c'est la fin de la résistance. Si le Vercors a accueilli des résistants, il a aussi accueilli des réfugiés. On peut prendre comme exemple l'ancien lycée polonais qui est situé à la place de l'hôtel de ville actuel. C'est un lycée qui accueillait des jeunes de notre âge qui fuyaient l'invasion de la Pologne par les nazis. C'est un lieu important pour ces jeunes orphelins afin qu'ils puissent suivre une éducation correcte. C'est un symbole de solidarité entre la France et la Pologne. Mais on aura le temps de parler de résistants dans un prochain podcast que nous préparons pour le début de l'année 2025, car nous aurons la chance d'interviewer de la famille d'anciens combattants, ou vous en dis pas plus, vous en saurez davantage dans le podcast dédié à cela. J'ai cité Jean Prévost, mais je ne vous l'ai pas présenté, je laisse avec Yann pour en apprendre davantage.
Merci Margot. Jean Prévost est né le 13 juin 1901 à Saint-Pierre-lès-Nemours, en Seine-et-Marne, dans une famille modeste mais profondément ancrée dans la culture et l'éducation. Fils d'un instituteur, il grandit dans un environnement marqué par l'importance du savoir et de la réflexion. Dès son plus jeune âge, Jean Prévost montre des aptitudes exceptionnelles pour les études. Lors de ses années de collège et de lycée, Jean Prévost se distingue rapidement par son intelligence. Il excelle dans toutes les matières, mais développe un amour particulier pour la littérature et la philosophie. Ce parcours scolaire brillant le mène à intégrer l'école normale supérieure en 1922. Son passage à l'école normale supérieure marque un tournant. Là-bas, il développe des réflexions sur la condition humaine, la justice et la liberté, des thèmes qui influenceront fortement ses œuvres littéraires. En tant qu'écrivain, Jean Prévost est principalement connu pour son implication pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, dès 1940, il refuse catégoriquement de se soumettre à la défaite et à l'armistice signé par le maréchal Pétain. Cette détermination le pousse à rejoindre rapidement les premiers réseaux de résistance dans la région Rhône-Alpes. En effet, dès 1940, il refuse catégoriquement de se soumettre à la défaite et à l'armistice signé par le maréchal Pétain. Cette détermination le pousse à rejoindre rapidement les premiers réseaux de résistance dans la région Rhône-Alpes. Il utilise ses écrits pour dénoncer le régime de Vichy et l'occupant allemand, mais aussi pour inspirer ses compatriotes. Jean Prévost écrit dans des journaux clandestins, montrant qu'il est possible de combattre avec des mots aussi bien qu'avec des armes. En 1943, son engagement prend une dimension plus active lorsqu'il rejoint le maquis du Vercors. Là-bas, sous le pseudonyme de Capitaine Goderville, il devient un chef charismatique et respecté. Le Vercors, devenu un haut lieu de la résistance, rassemble des centaines de combattants. Cependant, l'offensive allemande de juillet 1944 met brutalement fin à cette lutte. Jean Prévost est tué lors d'un affrontement près de Sassenage, à l'âge de 43 ans, tombant les armes à la main. Mais ses actes n'ont pas été oubliés, et il donne aujourd'hui son nom à notre cité scolaire.
Merci beaucoup Yann, on espère que cela vous aura aidé à comprendre le nom de notre lycée. Maintenant, place à Lilou avec les actualités, et elle va nous parler des JO de 1968.
Début janvier 1964, le comité d'organisation olympique choisit Grenoble pour ville hôte de la 10e édition des Jeux olympiques d'hiver. Cette sélection, savamment réfléchie en amont et fermement soutenue par le président français Charles de Gaulle, fut l'occasion pour l'agglomération grenobloise de se moderniser. En effet, la ville d'ancienne tradition industrielle lança un projet d'urbanisme surnommé Plan Bernard, en l'honneur de son architecte qui inaugura le début de grands travaux de rénovation. L'État finança en très grande partie cette nouvelle politique municipale, ce qui permit à Grenoble d'être fin prête pour le grand événement. Le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, parlait d'une réorganisation complète de la région, de la ville de Grenoble et de ses environs. Grenoble se dota ainsi d'un stade provisoire pouvant accueillir près de 60 000 personnes, d'un stade de glace, d'un village olympique pour accueillir les athlètes et d'un centre de presse. Les stations de montagnes alentours accueillirent différentes épreuves et nécessitèrent elles aussi d'importantes infrastructures. Les villages de Champs-Rousses, de l'Alpe d'Huez, de Saint-Nizier, d'Autran et de Villard-de-Lans connurent eux aussi d'importants aménagements. Le Vercors accueillit les épreuves nordiques. Autran bénéficiait d'une solide tradition en la matière et possédait un tremplin. Saint-Nizier, avantageux par sa situation géographique entre Grenoble et les Alpes, accueillit l'épreuve de saut à ski sur un tremplin impressionnant de 90 mètres, dont l'édification avait demandé des travaux considérables. Enfin, Villard-de-Lans hébergea l'épreuve de luge et construisit pour l'occasion une piste qui était considérée à l'époque comme la plus belle du monde. Des délégations de 37 pays pour près de 1200 athlètes se présentèrent aux Jeux Olympiques de 1968. Venus des 5 continents pour s'affronter, ils concoururent dans près de 35 épreuves. La cérémonie d'ouverture eut lieu le 6 février 1968 en présence de Charles de Gaulle. C'est le patineur Alain Calma qui alluma la flamme olympique sous les yeux émerveillés de millions de téléspectateurs qui virent pour la première fois les épreuves en couleur. S'en suivit ensuite pendant près de 2 semaines les compétitions sportives. Les athlètes français, pourtant 2e délégation au nombre de sportifs, finirent 3e du podium derrière l'Union soviétique et la Norvège qui raflèrent 14 médailles et remportèrent les Jeux. Néanmoins, l'athlète français Jean-Claude Killy remporta le plus de médailles, pour un total impressionnant de 3 médailles d'or. Les festivités prirent fin le 18 février, lors de la cérémonie de clôture des Jeux en présence de Georges Pompidou. En somme, les Jeux olympiques de Grenoble peuvent être considérés comme un succès malgré un déficit important de 80 millions de francs. La ville fut à la hauteur des attentes et sut se transformer en une agglomération moderne pour accueillir convenablement les athlètes et les touristes venus du monde entier. Les Jeux olympiques ont donc permis à Grenoble de se doter d'une image de première ville de France du XXe siècle. Selon un article de Paris Match datant de 1968, les stations de ski utilisées lors des épreuves ont également pu bénéficier des retombées très positives sur leur économie.
Un grand merci Lilou, on en a appris davantage sur les Jeux olympiques de 1968. C'est tout pour cette partie du podcast, on espère que c'est un thème qui vous aura plu et que vous avez de nouvelles connaissances. Maintenant, je vous laisse avec l'instant Parcoursup et Antoine.
Un ou deux jours avant la fermeture de Parcoursup, j'ai mis un peu au hasard licence d'études théâtrales à Paris en me disant lance-toi là-dedans, tu verras bien ce que ça fait, au pire t'es pas pris, c'est pas grave. Je suis monté à Paris et j'ai découvert la vie parisienne et la vie théâtrale.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Antoine Leclerc, un ancien lycéen du lycée Jean Prévost. Antoine, il a décidé, un peu par hasard et par chance, vous le verrez, de partir dans la voie du 7e art, dans le théâtre plus précisément. Il a toujours été très intéressé par le théâtre. Moi, quand je l'ai connu, on faisait partie tous les deux d'une troupe de théâtre sur Villard-de-Lans. Et donc, c'est cette branche du jeu et du jeu d'acteur en particulier qu'il va décider de poursuivre post-bac. Et je vais le laisser vous en parler tout de suite.
Alors moi c'est Antoine Leclerc, j'ai 19 ans. Aujourd'hui je suis étudiant à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. En parallèle de ça, du coup, je suis en formation dans une école privée de théâtre qui s'appelle le Centre des Arts de la Scène en 2e année. Alors moi du coup, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre tout au long de mon collège et de mon lycée, ce qui petit à petit m'a donné envie en fait. Je savais que c'était pour ça que j'étais fait, que c'était le milieu auquel j'appartenais en fait, le milieu de la scène, le milieu de l'interprétation. Je ne me sentais pas de faire un travail plus conventionnel. Un ou deux jours avant la fermeture de Parcoursup, j'ai mis un peu au hasard licence d'études théâtrales à Paris, en me disant, lance-toi là-dedans, tu verras bien qu'est-ce que ça fait. Au pire, t'es pas pris, c'est pas grave. Et au final, j'ai été pris. Il faut savoir que la fac, elle propose un enseignement plutôt théorique. Enfin, il y a un petit peu de pratique dans le cursus, mais très peu. Et si on veut vraiment être comédien, ou vraiment faire de la pratique, la fac n'est pas suffisante et généralement il faut faire une école là à côté, école souvent privée malheureusement. Donc du coup, je suis d'abord en licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, qui est du coup à Paris dans le 12e arrondissement. Donc on a de l'histoire du théâtre, où est né le théâtre, mais aussi il y a une partie aussi beaucoup plus technique, disons, dans le sens que on apprend aussi tout ce qui est le droit du théâtre, la socio-économie du théâtre, la scénographie, donc les décors, tout ça. En fait, c'est une licence qui est assez générale et globale sur tout le domaine théâtral. Même on peut parfois aborder d'autres arts comme la danse, le cinéma, mais du coup toujours d'un point de vue théorique, mais toujours à partir d'œuvres. Et donc ça reste très, très artistique comme étude. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est que tous les profs et dans la plupart de nos cours, on nous demande d'aller voir des pièces qu'on étudie ensuite. Du coup, on a des périodes où presque tous les soirs on va au théâtre. Et c'est génial parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre et d'appréhender le théâtre que d'être en contact direct avec lui. Et du coup, d'aller dans des salles de spectacle, de voir des spectacles de styles différents, de metteurs en scène différents, de langues différentes aussi parfois. Et ça, c'est pour le coup, être à Paris, c'est un vrai avantage pour ça. Et oui, donc plein de profs nous dirigent vers des pièces qu'on étudiera ensuite. On découvre un large panel de pièces et de plein de styles différents. Et du coup, vraiment, on se construit ses goûts grâce à ça aussi. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, en parallèle de ça, je suis aussi dans une école de théâtre qui s'appelle le Centre des Arts de la Scène, qui, elle, est à Paris aussi, mais dans le 15e arrondissement. Et donc là, c'est vraiment une école de pratique. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas seulement théâtre, c'est théâtre, mais aussi chant, danse, cinéma, comédie musicale, etc. Et donc, je peux avoir des cours de jeu d'interprétation, des cours de chant individuel, de chorale, des cours de danse contemporaine, de modern jazz, de comédie musicale, des cours de mime, des cours de clown aussi. On essaie aussi d'aborder, encore une fois, plein de directions.
Alors, la Sorbonne Nouvelle, je pense que pas mal de personnes connaissent, peut-être de nom. Moi, j'en ai une idée que la Sorbonne, c'est quelque chose d'assez compliqué pour y rentrer, que c'est une école qui est assez sélective. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu t'y étais inscrit un peu par hasard sur Parcoursup, mais pour qu'ils t'aient accepté, c'est que tu avais des choses à leur apporter. Alors, est-ce que en étant à l'intérieur, pour toi, c'est une école qui est sélective ?
Et l'école, pour entrer dans cette école, par contre, j'ai dû faire un stage, donc un stage de 3 jours. Où on est en immersion dans l'école, donc ça c'est vraiment génial parce que on n'est pas là à faire une simple audition et recevoir à la fin une réponse oui ou non. C'est que ça, c'est une sorte de découverte dans les deux sens. Donc durant ce stage de 3 jours, à la fois le corps enseignant nous découvre, mais nous on découvre aussi l'école. On est en immersion, on a quelques cours et donc ça pour le coup c'était assez, assez génial. Ils nous tiennent au courant de si on est pris ou pas. Après pour le coup il faut savoir que du coup la fac évidemment c'est gratuit. Enfin c'est gratuit ou pour les boursiers ou c'est une simple contribution parce que c'est public. Mais mon école elle est privée et donc c'est pas le même coût. Mon cursus dans mon école coûte environ je pense 2 700 € l'année. C'est un prix qui est très bas pour une école de théâtre. Mais voilà il faut être conscient qu'en faisant ce genre de parcours, les écoles privées peuvent parfois être un certain budget qu'il est important de prendre en compte quoi.
Au terme de ces années d'école et de fac, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? C'est pour t'orienter dans quoi ? Quel métier est-ce qu'il t'intéresserait ? Et est-ce que tu aimerais rester dans cette branche-là ou finalement ça t'a un petit peu vacciné du théâtre ?
Après mon école et ma fac, j'ai plusieurs options. Soit continuer à la fac dans un autre cursus, par exemple faire une licence de cinéma, parce que je ne me vois pas faire un master. Les masters ont l'air plutôt réservés aux étudiants souhaitant faire de la recherche ou devenir critique, etc. Et moi, comme j'ai envie d'être comédien, j'ai pas forcément envie de spécialiser encore plus dans le théâtre. J'ai plutôt envie de toucher au plus de domaines possibles, donc pourquoi pas faire après une autre licence, mais de cinéma ou de musicologie. Ou alors tenter une grande école nationale de théâtre. Donc on retrouve par exemple le CNSAD, qui est le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Du coup, c'est un concours qui est très prestigieux et très, très compliqué, mais qui est souvent un peu la suite logique après les écoles de théâtre. Ce qui est aussi une piste envisageable, c'est de créer une compagnie avec des gens avec qui j'aime travailler, parce qu'il est bon de savoir que dans l'école dans laquelle je suis, on est vachement poussé vers la création. Donc évidemment, on a nos cours avec nos profs et tout, mais ensuite, on dirait des sortes de travaux de groupe, mais vraiment à grande échelle, où on se met par groupe et on doit écrire une pièce de théâtre, la mettre en scène, la jouer, créer les costumes, la scénographie, le propos dramaturgique, le propos scénographique, être aussi proche de la création en essayant de découvrir par soi-même qu'est-ce qu'un processus de création. Et du coup, en le faisant, évidemment, c'est là où on apprend le plus pour ce genre de choses.
Alors, je suppose que combiner deux écoles, c'est quelque chose qui est assez gros. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemblent tes journées, nous faire une journée type de ton emploi du temps entre ces deux écoles?
Donc, moi, ce qui est assez pratique, mon école a ses cours de 9h à 14h30. Et donc ça, les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. Donc c'est un cursus de 20 heures par semaine. Ouais, je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est 20 heures par semaine. Et la fac, pour le coup, c'est 16 heures, je crois. Et ce qui est pratique, du coup, avec la fac dans laquelle je suis, c'est que je peux choisir les cours que je veux. Au début de chaque semestre, on sélectionne dans quel cours est-ce qu'on va être inscrit pendant le semestre. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai pu un peu me modeler moi-même mon propre emploi du temps et l'adapter à mon emploi du temps que j'ai dans mon école et à réussir à trouver un compromis entre les deux. D'avoir d'un côté la fac et d'un côté l'école, c'est assez génial parce que moi, dans le métier que je veux faire et dans l'énergie que je souhaite mettre dans mes études, je pense qu'il n'y a pas de meilleur compromis. Pendant toutes ces années où j'ai fait de la pratique, quand j'étais au collège et lycée, c'était à Villard-de-Lans, donc un petit village où il n'y avait pas forcément un gros accès au théâtre. Et puis moi-même, je ne cherchais pas forcément à aller beaucoup plus loin. Et en arrivant à Paris, je ne fais que apprendre l'histoire du théâtre et sa culture, son rôle dans la société, etc. D'avoir d'un côté ce côté théorique et de l'autre côté un côté beaucoup plus pratique à l'école où vraiment on apprend en faisant, et ben ça se couple super bien et en fait ça permet d'avoir un cursus et une formation complète.
Et enfin, je crois que Antoine, tu avais un petit conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient potentiellement suivre la même voie que toi.
Toujours se rappeler un peu ses objectifs premiers. Faut rester motivé, faut pas se démoraliser parce qu'évidemment c'est un milieu qui paraît très difficile d'accès, du coup qui peut devenir très vite décourageant. On peut très vite se décevoir ou perdre espoir, mais en fait faut se rappeler que c'est en entrant dans le milieu du théâtre et du cinéma, on n'est pas forcément voué à devenir une personne qui va être sur une grande affiche, on va pas forcément devenir un Pierre Niney ou DiCaprio ou j'en sais rien. Il faut se dire aussi qu'il y a tellement de possibilités dans ce métier que on pourra toujours un peu trouver sa place.
Et ben, merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça a pu aider un grand nombre d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui à trouver ou peut-être à vous éclairer sur une voie post-bac. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. On espère à tous que vous allez passer de très bonnes vacances de Noël.